nous avons des aspects. Nous sommes gros, petits, plutôt gros. Et puis, on est blond, moi, c'est plutôt blanc, etc. Donc, l'objet est d'abord ces aspects. Ces aspects qui seront pas seulement ce que je vois, ce que je sens, ce que j'entends, mais les ombres que je donne aux choses et les figures que je vois. Une flèche n'est pas une croix, c'est un objet, la croix est un objet, la flèche est un objet. Alors, on va essayer d'approcher ça comme ça, d'essayer de voir comment on peut. Question financière. Se prédit un peu.
Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est un nouveau Christ? Est-ce que c'est la création, que ce sera la création de l'homme?
Une chose est sûre, je ne voulais pas encore démontrer, c'est vrai, alors qu'ils ont pas fait les sûrs. Enfin, j'essaierai de vous la rendre sûre. Les mots ne trompent pas. Si vous n'êtes pas convaincu que les mots ne trompent pas, ou que les nombres ne trompent pas, les chiffres ne trompent pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez rien faire dans ce cas. Je vous assure, avant de vous le démontrer, que les mots ne trompent pas. Et, par conséquent, Verseau doit porter tout ce qu'il compte. Le bélier doit apporter tout ce qu'il compte. Le bélier, il n'y a rien à faire, c'est le fascia du juif. Du cravon. Et du juif, puisque du cravon. Le juif a le fascia du bélier. Il ne peut pas le renier. Un musulman sunnite, c'est-à-dire éperdu de la loi, peut devenir un chiite, peut devenir un hérétique. Bon, rien n'en empêche. Le juif ne peut pas faire autre chose qu'être le serviteur de la justice. C'est sa fonction même. Mais en même temps, et puis c'est vrai du poisson, on n'a pas. Je ne sais pas si vous avez suffisamment remarqué, moi j'ai remarqué avec étonnement il n'y a pas très longtemps, il y a combien de frères chrétiens, combien de chrétiens des origines, des recrutés, Jésus-Christ qui vous avoue. Il y a encore de magnifiques chrétiens à l'heure. Eh bien, combien il a les yeux du poisson, les yeux d'eau du poisson, combien il prend un patient de poisson. Ah oui. La bouche gourmande, les yeux bleus, oui. La douceur du regard, etc. Et il est certain que dans 2000 ans à venir, le chrétien se vivra avec ce patient de poisson. C'est en quoi il restera en dehors. Des temps futurs, comme je suis fait rester en dehors de l'évolution chrétienne. Ce sont des réalités tangibles. Eh bien, donc, le Verseau, c'est quoi? Ben, c'est l'inverseur. C'est celui qui renverse. S'il y a quelque chose de commun à tout ce qu'on attend du Verseau, c'est bien l'inversion. Et plus ça va, plus on approche du nouveau Christ ou du nouveau Jéhovah, plus on sent à quel point le Verseau est l'inverse. Je vais vous citer une dizaine de versions, parce que vous voyez les marques. Mais commençons le plus simplement du monde. Commençons par quelques exemples pris au hasard, un grand nombre de choses pris au hasard. Au début de l'avènement d'un lieu, l'avènement de la nouveauté, qu'est-ce que ça a été dans les temps qui ont précédé le Christ, dans les deux siècles qui ont précédé? Ça commençait par être l'amour de la sagesse pour les philosophes et les arts, notamment, et puis encore pour Socrate, et encore pour Platon. C'était vraiment l'amour de la sagesse, l'amour d'un état d'équilibre et de paix et de tachisme de l'homme. Et puis, peu à peu, avec les sophistes, avec tout ce qui a continué, les aristotéliciens, c'est devenu la science de l'amour, la sagesse de l'amour. L'amour de la sagesse est devenu la sagesse, la science de l'amour. C'est ce qui s'est passé dans les deux ou trois siècles qui ont précédé le Christ. Et
depuis le 18e, qu'est-ce que nous voyons? Ben, nous avons vu une franc-maçonnerie coopérative qui se fondait sur la liberté de création, qui ouvrait ses portes, en fait, aux poètes, aux aristocrates, aux... et aux ouvriers pour en faire des princes, parce que c'était ça l'objet de la coopérative. C'était d'en faire des princes. On leur apprenait l'escrime, on leur apprenait la danse, on leur apprenait la poésie. On en faisait des hommes libres. Et puis, la franc-maçonnerie contraire, rationaliste, spéculative est venue. Et qu'est-ce qu'a prétendu la franc-maçonnerie spéculative? Eh bien, c'est la création de la liberté. On s'est dit, si on s'appuie sur la trinité, liberté, égalité, fraternité, on va créer la liberté. Et pas réussi dans le camp. Donc, dans un cas, la science d'amour est devenue, l'amour de la science est devenue la science d'amour, dans l'autre, la liberté de la passion est devenue la passion. Très belles inversions. Qui sont dans les faits, qui sont dans l'histoire, qui expliquent l'histoire. Si on continue le cheminement des mots, nous verrons, je reviendrai plusieurs fois, mais il y a dans l'unité. Quand je dis c'est un, ça veut dire je vis que c'est comme ça, et en même temps, j'ai agi pour que ce soit comme ça. Il y a l'acte de boire, et puis il y a la lecture de l'acte de boire qui fait que le verre n'est plus qu'à la moitié. Cette lecture des actes et cet acte de lecture vont faire vraiment tout le problème philosophique de l'unité. Est-ce que c'est une conception des choses? Est-ce que c'est un aspect des choses? Est-ce que je vois les choses comme ça? Ou est-ce que je crée, je conçois, je j'imagine qu'elles sont comme ça? Est-ce que je les lis comme ça ou est-ce que je les fais comme ça? Mais la liberté des actes peut devenir un acte de liberté, etc. À la fin, ce sera la même chose, il y aura un inventaire de ce qui est fait, il y aura une inscription. Et puis, cette inscription, ben, ce sera les fins monétaires, comptables, l'inscription des fins, dans le livre de comptes. Mais cette inscription des fins, c'est bien sûr une fin des inscriptions. On s'arrête là, il n'y en a plus d'inscriptions, c'est liquidé. Ou alors, il faut passer à notre cycle, à notre mois, à notre année. Bon. Ouais, continuer indéfiniment. Un des mots que je donne, sur lequel je me présenterai tout à l'heure et qui est très amusant, c'est le passage du chemin de croix au chemin de fer. C'est Jarry, Alfred Jarry qui a mis ça en lumière.
Eh bien, c'est une inversion très significative. Dans le chemin de fer, la station est dans l'État.
Et dans l'État de la France, vous avez les stations de Saint-Pierre-des-Corps, de Brest, etc. Où le train revient sur ses chaises, je ne sais pas.
Et puis il y a d'autres stations, de toutes les gares,
des stations qui reviennent. Et on peut disposer autant de stations qu'on veut dans l'État. On est libre. Quand on dit son temps de temps, on le sens. Mais dans le chemin de croix primitif, il y avait les stations, les 14 stations du calvaire. Et à chaque station, il y avait un État différent du Christ. L'État était dans la station. Et à ce moment-là, l'individu est beaucoup moins libre. À cette station-là, il est lié à tel État. C'est pas comme quand il choisit des gares à travers la France. Ça ira très loin, parce qu'un même mot va aller d'inversion en inversion. Les savants aujourd'hui, ils aiment bien les philosophes scientifiques aujourd'hui, ils aiment bien parler de relation et de mode. La chose en elle-même, elle a son mode, la chose en soi, et puis par rapport à une autre chose, il y a des relations entre. C'est Kant qui a inventé les emphases. C'est une distinction qui a beaucoup connu de prolongement depuis le temps de Kant. Et toute la science actuelle, la science mathématique de l'ensemble, notamment, est fondée sur cette distinction de relation et mode. Mais quand vous approfondissez, aucun mot n'est simple. Les relations, ce sont évidemment les relations entre les choses, entre les objets, mais c'est la relation
c'est-à-dire le récit de l'ensemble. Et relation récit, puis alors là, c'est un rapport.
On emploie le même mot pour dire les deux contraires. Le mode,
c'est la chose en soi, mais c'est les modes, c'est les changes qui vont se produire au gré des grands couturiers. Alors, de quel mode s'agit-il? De quelle relation s'agit-il? Et puis ça va continuer, c'est-à-dire que on parlera actuellement, on oppose de la même manière un peu l'usage à la mention. Un mot est-ce qu'il est, c'est-à-dire, ça s'écrit comme ça, ça s'écrit comme ça, et puis l'art de dire des choses, de dire quelque chose. Ce chien est à moi ne veut pas dire la même chose que je vais à Paris. Il y a le sens du mot de la lettre A, puis il y a la mention. Ça. Eh bien, c'est la mode qui est devenue mention, et puis c'est la relation qui est devenue ça. Et puis si vous continuez, ben, l'usage, à force d'être employé, un objet s'use. L'usage devient usure. L'usage devient usure alors que la mention devient motion, devient moteur, devient en même temps décoration, autorité, etc. Et puis cette usure elle-même, cette déperdition elle-même, ben, rapporte des sous. Ça s'appelle l'autre usure. Fait gagner de plus en plus d'intérêt à mesure que le temps passe. Etc., etc. Alors, vous voyez à quel point les mots disent tout. Si vous voyez la vie d'un altamo sur 3 siècles, vous saisissez en même temps l'histoire de l'humanité sur ces 3 siècles. Tout ce qui est allé de l'abusin d'usage, de l'instrument à l'usure actuelle, le crédit de bonheur, eh bien, c'est contenu dans les mots usage, usure, etc. Et tout ce qui est allé depuis le mode philosophique jusqu'au mode du grand couturier est contenu aussi dans les jeux du mot mode. Alors, on va voir d'une manière plus approfondie, ça sera un peu plus difficile, que les nombres vivent aussi de ces inversions qui est figure en vie. J'ai dit que j'arrêtais au bout d'une heure, j'arrête. Et puis ceux qui peuvent s'en aller, s'en vont. C'est la même chose. Ce qu'il a découvert, c'est l'Apocalypse, qui est sans doute le livre
plus complet, l'un des plus complexes qui ait été écrit.
Personnellement, j'ai fait 3 études successives de l'Apocalypse
en une trentaine d'années.
Et à chaque fois, j'ai approfondi et éclairé le problème.
Et aujourd'hui, je crois que c'est très simple pour moi. Mais il m'a fallu 3 études successives. Et en fait, il y a peut-être une 50aine d'études sur l'Apocalypse faites par des hommes comme Newton, comme Schwedenburg, par des ministres, par les plus grands savants et les plus grands chercheurs. Ce que j'ai découvert finalement, d'autres l'avaient quand même dit un peu avant moi, mais j'ai réuni plusieurs études, plusieurs analyses. Ce qui est extraordinaire dans l'Apocalypse, c'est que c'est vraiment le seul livre prophétique qui tienne compte des deux certitudes que je vous ai dit tout à l'heure. L'enfant qui devient adulte et l'adulte qui crée l'enfant. Il y a beaucoup d'œuvres prophétiques qui ont traité soit un sujet, soit l'autre. Zoroastre, quand il fait la vie du Dieu Soleil sur 12 000 ans, il décrit la décadence du Soleil. Ou bien les Hindous, quand ils font leur yoga de 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, 4 ans, ils font un schéma de déclin, ils racontent la vie d'un Dieu pour qu'on raconte. Comment les mythes se succèdent, notamment en astrologie, comment le bélier donne le poisson qui donne le verso. Mais l'Apocalypse, c'est deux choses à la fois, c'est tout à fait ce qui est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que l'Apocalypse? C'est l'histoire du déclin de l'archer, du cavalier à l'arc, le premier des 4 cavaliers, le début de l'Apocalypse. C'est sa dégénérescence sur 9 000 ans. Et ça va être sa renaissance dans le cavalier blanc de la Jérusalem. Et pendant que le Sagittaire décroît comme ça, avec des périodes de sursaut, avec des périodes admirables, hein, il est quand même le plus rayonnant, il est plus, il est Apollon, il est Christ, figure de l'archer. Mais il y a tout de même une dégénérescence du Dieu dans l'Apocalypse. Et en même temps, il y a l'idée qu'un mythe en crée un autre. Il y a un mythe des pères, quand un mythe des pères, l'autre existe. La Vierge a créé le poisson, le Christ. Mais, dit l'Apocalypse, le Sagittaire a créé les Gémeaux. Et c'est ce que disent les légendes mayas d'Amérique du Sud et aussi de l'Inde. Il y a d'abord l'archer, le grand archer, la pluie, le lanceur. Le dieu solaire, le dieu de feu, et puis il meurt, il est tué généralement par le serpent, par le dieu des ténèbres, forcément puisque lui est la plus lumière, et quand il est mort, il a donné naissance, d'une manière assez curieuse d'ailleurs, chez les Américains, en Amérique du Sud, les Mayas, les dieux des ténèbres, les Camus, les Camus, les ont fini par l'entraîner dans le champ des cendres. Ils l'ont désespéré en lui montrant que c'était la fin du soleil, c'était la fin de la lumière. Et quand ils l'ont eu désespéré, ils lui ont coupé la tête, c'est déjà un vrai dieu. Et ils ont mis sa tête dans un calebasse, l'arbre du calebasse, sauf cet arbre qui sert de refuge à l'archer. Et c'est là que la Vierge va se retrouver la tête et le revivifier avec une méthode bien propre de la Vierge, elle va lui cracher dessus. Et elle crache dessus, elle va ressusciter, ou du moins elle va pas ressusciter, mais elle va lui redonner assez de puissance pour qu'il lui donne à elle, pour qu'il l'enfante, qu'il lui permette d'enfanter les jumeaux. Et les accus jumeaux, ne conquerront leur puissance que quand ils auront trouvé dans le grenier, de la grand-mère, les armes du grand ancêtre, c'est-à-dire la sarbacane, la pelote, la boule, le gant, le cuir, etc., qui vont lui permettre, par le jeu de la pelote d'ailleurs, vont permettre aux de reconquérir toute leur puissance magique. Bon, donc, Jean n'est pas le premier à dire ça, que l'archer, le père des chevaux. Ce qu'il dit, c'est qu'à mesure que l'archer mort a entamé sa renaissance dans le pays des ombres, pour devenir le cavalier blanc de Jérusalem nouvelle, à mesure qu'il va croître dans sa mort, les Gémeaux vont dégénérer dans leur vie. Et qu'en fin de compte, les Gémeaux seront les pères de l'argent. Le père est le père du fils, mais le fils, il devient père. En devenant adulte, il devient père. Et en devenant père, il va procréer dans l'âge du temps petit-fils, alors ou l'arrière-petit-fils, qui est tout à fait conforme aux théories génétiques et biologiques d'ailleurs, il a les mêmes caractéristiques que le grand-père ou l'arrière-grand-père. Et tout ça en même temps. C'est-à-dire que d'une part, il raconte qu'on va passer d'un signe à un autre, on va passer des sauts aux trompettes, des trompettes aux tonnerres, des tonnerres aux signes chrétiens, des signes chrétiens qui annoncent le berceau, et puis de là aussi des montagnes qui annonceront la capère, et puis au-delà de la capère, bon, la renaissance de l'archer. Il dit ces phases, mais en même temps, dans chaque phase, il décrit les périodes de dégénérescence. Il y aura sept sauts, il y aura sept compètes, sept tonnerres, sept signes, sept coupes, sept cités montagnes. C'est extraordinaire. Comment arrive-t-il à ça? Il y arrive en juin. Il y arrive en juin parce que il va en fait utiliser les 42 coups du jeté, du crâne sous la face anglaise. Le nom ne peut pas être trouvé par hasard parce que les 42 sont toujours là. Enfin, mais les 42, c'est le nombre auquel vous arrivez infailliblement au crâne. Vous prenez n'importe quelle combinaison possible, ce sera 1 plus 6, ce sera 2 plus 5, ce sera 3 plus 4, vous êtes sur le nombre 7, vous aurez les 6 combinaisons de 7. Et donc, puisqu'il y a 6 phases à chaque dé, donc vous aurez le nombre 42. Je ne vous continue pas, on peut démontrer, ça va très loin. Le 42 est le nombre du crâne, enfin, c'est le nombre de l'apocalypse. Mais il y a plus fort, c'est que il y a trois mondes d'importance. Quand il parle de l'unité de temps, c'est 3,5. 42 ou 1260. Il emploie différemment un nombre ou l'autre. Ah, il est évident que 1260 contiennent 30 fois 42. Et que 42 contient 12 fois 3,5. C'est, si vous voulez, que 3,5, c'est le degré. Si 1260, c'est les 360 degrés du cercle. 3,5, c'est le degré de 360. Comme le jour et le degré d'année 360 jours, etc. Alors là, on dira 1260 contiennent 42, 42 contiennent 3,5. Mais ces 3 ans et demi, c'est 42 mois, c'est 1260 jours. Et là, les 3,5 contiennent les 42 qui contiennent les 1260. Le même nombre est pris tantôt comme constant, tantôt comme contenu. Et c'est ce double jeu calendrique d'une part purement arithmétique de l'autre qui va permettre extraordinaire précision mathématique d'apocalypse. Je vais vous parler un peu plus longuement de deux conférences que Laurent Guillaume m'a permis d'étudier parce qu'il en a fait lui-même et que ça l'intéressait de voir mon point de vue. Enfin, on en a traité d'un ensemble, on peut dire, et vous, peut-être un peu moins rapidement, mais on a travaillé ensemble à ces deux trucs. L'un est une prophétie d'un romancier anglais du siècle dernier,
William Collins.
William Wilkie. Enfin, son vrai nom, c'était William, mais il s'appelle Wilkie.
Oui, c'est pas tout le monde de classe.
Oui, tout le monde.
Bon, ces deux romans sont des romans policiers et des romans fantastiques, un petit peu fantastiques, donc policiers. Donc des livres qu'on pourrait mépriser, mais qu'on va en fait étudier en université, actuellement, pas quand même. L'un c'est la pierre de lune et l'autre c'est la dame blanche. C'est deux histoires sensiblement différentes, ces deux rencontres.